je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour. Happy Hour.
Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en pleine Happy Hour. C'est la troisième émission et nous sommes déjà à court de boissons. Voilà, l'organisation, c'est pas vraiment, vraiment notre fort, mais il faut le souligner, cette troisième émission, c'est aussi la première où nous sommes au grand complet. Alors, Eric n'est pas encore arrivé, mais jusqu'à maintenant, Valérie était là en remplacement. Alors, on y reviendra tout à l'heure, parce que là, on a aussi la petite nouvelle, mais maintenant, elle a bien grandi. Inès, salut à toi.
Salut à tous.
Alors, je sais que t'es arrivée tard hier et je t'ai pas vraiment facilité la tâche, mais t'as quand même réussi à nous pondre une chronique.
J'ai fait ce que j'ai pu et je vais faire un truc sur les sorcières, donc vous verrez, j'en dis pas plus.
Et le magnifique timing d'Eric qui arrive, quelle entrée Eric qui se positionne sur la chaise, on revient à toi tout à l'heure. Comme je vous le disais, Valérie était en remplacement jusqu'à maintenant, elle remplaçait un homme, parce que oui, j'étais partie sur une équipe paritaire. Hein. Il s'est défilé de nombreuses fois, il s'est nagé 2 km en brasse coulée et il est aussi italien que je suis espagnol. Angelo, salut.
Bonjour à tous.
Ça va, pas trop stressé?
Non, je suis ravi d'être là. Alors après, ça fait plusieurs fois que je squatte devant la radio pour être invité à l'Instant Sport, mais c'est pas eux qui m'ont invité, mais je suis ravi d'être là.
Nous aussi, on est très heureux que tu sois là, merci Angelo. Bon, et toi, t'es parti te balader ce week-end?
Ouais, je suis allé dans un bureau. On en parle maintenant ou c'est juste la présentation?
Il est au taquet.
Hein,
on verra ça tout
à
l'heure.
Ça tout à l'heure.
Merci Angelo. Et donc Eric, maintenant que t'es installé, ça va?
Oui, c'est là. Bonjour les gens.
Je parlais de notre magnifique organisation il y a quelques secondes.
Exceptionnel.
Je vais devoir m'excuser toutes les deux semaines auprès d'Eric. Bon, t'as quand même ramené une chronique?
Oui, je parlais de post-vérité.
Super, merci à toi. Et enfin, l'Happy Hour, ce n'est pas qu'une équipe de choc qui change toutes les deux semaines. C'est aussi des invités de marque. Aujourd'hui, on va parler clitoris, plaisir sexuel et se poser quelques questions sur la femme au sein de la société. Tout ça avec Kate Lemestre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du planning familial et à côté de vous, Lydiane Lafont. Bonjour, vous êtes également membre du planning familial.
Oui, tout à fait, bonjour.
Et également sexologue. Alors, on va peut-être commencer par rappeler le rôle du planning familial, si vous le voulez bien.
Le planning familial, c'est une association national. Nous, on est le parti lausérien départemental. C'est une association d'éducation populaire, féministe et laïque. La plus importante, c'est qu'on travaille sur l'éducation de la vie affective, émotionnelle, relationnelle et sexuelle. Donc, on va parler des interventions qu'on fait, mais notamment, on accueille le public dans un nouveau local qui est rue Chanteron, en face à l'inspection académique, où on est ouvert tous les mercredis après-midi sans rendez-vous et du lundi au jeudi sur rendez-vous.
Alors, donc, vous étiez où avant d'entrer dans ce nouveau local?
Avant, on était 200 mètres plus haut sur la place Mazel.
Ça va pas trop vous changer.
Non, parce que les gens vont pouvoir nous trouver.
Et d'ailleurs, en parlant des gens, quel type de personne vient vous voir la majorité du temps?
Donc, le planning familial est ouvert à toute personne qui souhaite aborder les thématiques de la vie affective et sexuelle, des jeunes, mais pas que, des personnes donc, de tout âge, autant des hommes que des femmes, seules, en couple ou en groupe d'amis.
Et je suppose que le planning ne travaille pas tout seul, vous devez avoir aussi de nombreux partenaires.
Oui, tout à fait, notamment lors des actions qu'on fait hors les murs, en milieu scolaire, on intervient avec le réseau Jeune 48, donc la consultation jeunes consommateurs de l'AMPA, le PAEJ, point accueil écoute jeune, et également le centre de planification, la PMI.
Est-ce que autour de la table, je m'adresse aux chroniqueurs, vous avez déjà été au planning familial ou vous êtes déjà dit que vous devriez y aller un de ces jours pour poser, des questions ou...
Moi, j'y suis allée plus jeune, mais une seule fois. Mais après, ouais, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait automatiquement. Je pense qu'à mon époque, on n'avait pas trop parlé. Voilà.
Vous pensez qu'il y a un manque d'informations vis-à-vis de la population par rapport à l'existence de la structure?
Je pense maintenant qu'on intervient beaucoup dans les établissements scolaires. On voit que les collégiennes et les lycéennes nous connaissent mieux. C'est important à monde parce que beaucoup de lycéennes et collégiennes sont loin de la famille. Il y a beaucoup d'internats. C'est pour ça qu'on reste ouvert tout le mercredi après-midi. Et même s'ils n'osent pas poser les questions en groupe, quoique ils en posent beaucoup, ça nous donne la possibilité pour eux et elles de venir dans un lieu plus informel après. Après, c'est bouche à oreille. Hein. Souvent, les gens disent oh, j'ai une copine qui est venue, ou je viens avec mon copain. Ça fait boule de neige comme ça.
Vous pensez que les gens, il y a une espèce de honte à aller au planning familial, justement, ou simplement, ils n'osent pas?
Je pense que pour certaines personnes, oui, c'est très difficile de venir parler d'intimité. Et donc, peut-être que cette notion un peu de tabou peut empêcher certaines personnes de venir. Mais nous, on reçoit les gens en toute confidentialité et dans le respect de leur anonymat.
Donc, je rappelle que vous êtes ouvert toute la semaine sur rendez-vous et le mercredi de 14h à 17h sans rendez-vous. C'est bien ça?
Oui.
Alors, si on a envie de prendre rendez-vous avec vous, est-ce qu'on doit d'abord se poser quelques questions ou alors est-ce qu'on doit vous dire à vous pourquoi est-ce qu'on vient ou c'est vraiment, on vient pas sur un coup de tête, mais on vient comme ça parce qu'on en a besoin.
On téléphone, on prend rendez-vous, la personne va poser les questions et la personne qui arrive est libre de parler ou ne pas parler, de parler d'autre chose, surtout dans une première rencontre. C'est la création d'une relation qui est importante. Hein. Donc, on travaille avec les méthodes d'écoute active, sans jugement, dans le respect de la personne. Et on trouve que les gens se sont très vite à l'aise avec ce genre d'accueil.
Et au sein du planning familial, du coup, les personnes qui accueillent, est-ce qu'elles ont des formations spécifiques? Ce sont des personnes qui sont habituées à un public jeune ou...
Oui, alors on est obligé d'avoir une formation. Donc il y a plusieurs formations, mais surtout, c'est la formation de conseil conjugal familial qui prône, qui est une formation de trois ans. On a notre animatrice qui a une formation en genre et santé sexuelle. Et on est tous formés à l'écoute, donc l'accueil est garanti par tout le monde qui accueille.
Angelo, toi qui es éducateur, ce genre d'accompagnement?
Tout à l'heure, oui, de sortir de l'institution, d'aller à la rencontre des jeunes directement sur leur lieu de vie, enfin sur le lieu où en tout cas ils passent le plus de temps, ça me parle et c'est intéressant. Oui.
Quels sont les sujets que vous abordez justement quand vous allez dans les collèges?
Ça peut être tout sujet autour de la vie affective et sexuelle, les différentes méthodes de contraception par exemple qu'on peut présenter. Discuter autour de l'interruption volontaire de grossesse et plus généralement autour des relations filles-garçons, des relations sexuelles, des représentations qu'on peut avoir des relations sexuelles, les notions de désir, de plaisir aussi.
Surtout dans un but de prévention contre la violence, parce qu'on peut constater que les relations entre filles et garçons dès le plus jeune âge s'améliore pas, et on voit que dans les collèges et les lycées, il y a beaucoup d'instances de harcèlement, de verbal ou physique ou sexuel. Donc, les groupes qu'on anime sont censés d'agir sur les représentations, sur comment vivre ensemble, et en espérant éviter les dérapages plus tard.
Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que vous communiquez surtout avec un public jeune, mais ces questions que vous évoquez, c'est aussi des questions qui peuvent se poser à tout âge. Est-ce que votre public, c'est plutôt un public... Les gens qui viennent vous voir, dans tous les cas, c'est plutôt un public jeune ou vous avez vraiment un public hétérogène?
La grande majorité, ça reste des jeunes, parce que je crois qu'on est repéré comme ça par les partenaires. Et comme on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire, de fait, c'est eux qui nous connaissent le plus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit aussi des couples et des personnes de tout âge.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Kate, sur la question?
Oui, on n'a pas parlé des interventions pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Souvent, les équipes dans les institutions sont mal à l'aise sur les questions de sexualité, de vie affective entre les résidents et les résidentes. Ils sont à la demande d'informations sur comment gérer ces relations, comment aider les jeunes adultes qui, en situation de handicap cognitif ou physique, peuvent être accompagnés dans un épanouissement affectif et relationnel. Donc c'est quelque chose qu'on a fait depuis de nombreuses années, donc on va continuer, sachant qu'en Lozère, il y a de nombreuses institutions de ce type.
Donc vous faites aussi des interventions en EHPAD?
Ça se peut en EHPAD. Je pense qu'on n'a pas encore fait en EHPAD, mais c'est surtout dans les institutions qui accueillent les adultes pendant une longue durée, souvent.
Ou alors au CEM de Montrodat, par exemple.
Quelle problématique majeure vous rencontrez en Lozère par rapport à ces questions justement de sexualité, de relations filles-garçons?
Moi, je dirais en Lozère, c'est l'isolement et le regard de l'autre. Si on habite dans une grande ville, Montpellier ou ailleurs, on peut vivre sa sexualité plus facilement si sa sexualité n'est pas considérée comme dans les normes, je mets entre guillemets. En Lozère, d'abord, il y a un isolement parce que soit dans les familles, on ne parle pas. Les familles restent peut-être assez pudiques par rapport à l'affectif et sexuel. Soit on ne se sent pas à l'aise parce qu'on ne se conforme pas avec ce qu'on souhaite, les parents ou les collègues. On a d'autres... On voit émerger d'autres formes de sexualité qui sont difficiles à comprendre. Donc je pense que, comme beaucoup de problèmes en Lozère, c'est l'isolement, c'est le problème de déplacement. On se déplace dans les permanences, mais on ne peut pas être partout tout le temps. On n'a que deux animatrices à mi-temps. Donc qu'on va à Florac ou Langogne ou Saint-Chély, ça ne peut pas être tout le temps. Donc, on voit que c'est difficile pour les jeunes de trouver un créneau pour venir nous voir et de parler librement chez eux ou dans les établissements scolaires si ils ou elles se sentent un peu différentes.
Et vous pensez justement que cette pudeur, elle est plus présente dans les territoires ruraux comme la Lozère qu'en ville ou...
Le pudeur, je ne sais pas, mais je pense que vivre pleinement sa sexualité conduit à un regard... Dans un village, par exemple, tout le monde parle avec sur qui fait quoi, qui sont avec qui va partir pour le week-end, qui reviennent. C'est les ragots qui ne touchent pas que les enfants, ça touche les adultes aussi. Donc, je pense que cet anonymat que nous on peut préserver dans les entretiens est très nécessaire parce que souvent on est la seule personne à qui les individus puissent parler.
C'est une sensation qui est partagée autour de la table, ce manque de... Pas de vie privée, mais... Si, si, en fait, si.
Oui, bah, je pense, c'est quand même... rien qu'au niveau de Mende, c'est une petite ville, donc dès qu'on sort, on croise quelqu'un. Si on rentre quelque part, les personnes nous identifient ce qu'on vient chercher. Donc je pense que voilà, les choses se savent vite. Donc ça peut être une inquiétude, je pense, surtout pour les jeunes, peut-être, parler de sexualité... Par rapport aux autres, par rapport aux personnes de leur âge, je pense que c'est un cap à franchir quand même.
Mmh, parce que les préjugés arrivent vite aussi. Mmh. Eric, toi, tu as cette sensation-là aussi ?
Oui, non, mais c'est vrai que c'est Mende, c'est petit, tout le monde connaît un peu tout le monde. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, je pense, d'oser franchir le pas et d'éviter le regard des autres. Ouais.
Angelo ?
Moi, je ne suis pas originaire de Mende, donc personne ne me connaît. Et j'ai pas de vie sexuelle, donc du coup, ça ne concerne pas non plus. Non, moi, je voulais vous demander.
C'est un message que tu veux faire passer, un c'est appel. Ça,
On rappelle 06 d'Angelo est disponible sur le site de 48FM.
N'hésitez pas à communiquer. Et moi, je voulais demander par rapport au lien dont vous aviez parlé tout à l'heure par rapport aux institutions médico-sociales. Mm-hmm. Comment vous travaillez avec les professionnels de l'insertion ou du médico-social? Est-ce que vous proposez des formations? Est-ce que vous pouvez être sollicité pour intervenir sur un temps de réunion spécifique parce que les gens se posent des questions? Comment vous.
Donc, on fait des temps de sensibilisation auprès des futurs professionnels. On en a fait à l'ETES à Marvejols et on en a fait l'année dernière et c'est prévu d'en refaire cette année à l'IFSI, à l'école des infirmiers. Après, à chaque fois que des professionnels nous sollicitent, on essaye au maximum de se rendre disponible pour aller discuter avec eux de situations qui ont pu poser problème dans l'institution et éventuellement organiser, s'ils le souhaitent, ces temps de sensibilisation.
Donc c'est à la demande, avec négociation avec la direction, bien sûr.
Moi, j'avais envie de vous poser une question. Comme vous abordez des sujets sur les relations hommes-femmes, la sexualité, etc., je suppose que vous introduisez également des notions de genre. Comment est-ce que vous arrivez à faire rentrer de féminisme aussi, par exemple? Comment est-ce que vous arrivez à faire rentrer ces notions-là dans votre discours face à face avec quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop compliqué ou est-ce que vous le faites au fur et à mesure?
Ben, je pense que si on a cette approche d'écoute active sans jugement, dans les échanges, ça arrive assez rapidement que les gens, même s'ils n'ont pas peut-être le même vocabulaire que nous, se sentent respectés et peuvent parler à la fois de la malaise peut-être par rapport à une relation, ou le désir, ou non-désir. Et c'est en maintenant cette posture de respect et sans jugement que tous ces sujets peuvent être abordés.
Il y a une dimension très psychologique aussi qui doit être, parfois être un peu compliquée à prendre en charge.
C'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires, parce que si on sent que vraiment il y a un besoin d'approfondir une blessure psychique, par exemple, donc on travaille avec les psychologues, avec les psychiatres, on oriente. Donc on ne prétend pas de tout faire. On ne fait pas les suivis à long terme. Donc c'est les entretiens qui durent quelques temps à la demande de la personne. Des fois, ça peut être une rencontre unique et la personne sort un peu comme vous avez fait en disant bah, « ça va, j'ai une réponse à ma question ou pas ». Si on sent que vraiment il y a une histoire compliquée, ça peut être une histoire traumatique qui nécessite une vraie prise en charge. Donc on oriente, on accompagne la personne, on a dit « on est toujours là pour vous ». Vous pouvez revenir quand vous voulez, mais on pense que c'est important que vous apportiez cette histoire à quelqu'un qui est formé pour.
Et lui, pas besoin de prendre de rendez-vous pour écouter sa chronique. Vous n'avez qu'à allumer votre radio. Eric, c'est à toi.
Oui, on ne cesse de nous répéter ces derniers temps que nous vivons dans l'ère nouvelle et effrayante de la post-vérité et que nous sommes cernés par les fake news. Bon, il faut dire que nous pouvons en trouver sans mal des exemples avec tous les conflits actuels. Et en temps de conflit, certains trouvent parfaitement autorisé, voire même nécessaire, d'utiliser des mensonges pour défendre leur cause. Mais si on y réfléchit bien, quand on parle de vivre dans l'ère terrifiante de la post-vérité, cela voudrait dire qu'il a existé un âge heureux de la vérité. Mais c'était quand ? Bon, en vérité, je me demande si l'âge de la post-vérité n'est pas en réalité celui de l'humanité. Voilà, je l'affirme ici, Homo sapiens, c'est une espèce post-vérité dont le pouvoir suppose que l'on crée des fictions et que l'on y croit. Nous sommes ainsi les seuls mammifères capables de coopérer avec des inconnus, parce que nous seuls pouvons inventer des fictions, les diffuser autour de nous et convaincre des tas d'autres homo sapiens d'y croire. Et si on reproche à Facebook, Trump ou Poutine d'inaugurer une nouvelle ère effrayante de la post-vérité, c'est leur donner bien plus de pouvoir en monde. Par exemple, rappelez-vous que depuis des siècles, j'ai bien dit des siècles, que des millions voire des milliards de chrétiens se sont enfermés dans une bulle mythologique sans jamais contester la véracité de la Bible, ou que les musulmans ont accordé une foi aveugle au Coran. Pendant plus de 2 millénaires, ceux qui passaient pour des nouvelles et des faits dans les réseaux sociaux de l'époque étaient des histoires de miracles, d'anges, de démons et de sorcières, avec des journalistes qui n'hésitaient pas à réaliser leurs reportages en direct du fin fond des enfers. Ça en jette, hein ? C'est autre chose qu'un reportage de Midi Libre ou 48 FM sur un député de la Lozère, ça.
Oh, attention.
Bon, je risque d'en choquer plus d'un, mais je me lance. En réalité, nous n'avons aucune preuve scientifique que Ève ait été tentée par le serpent, que les âmes des infidèles brûlent en enfer après la mort ou qu'ils déplaisent à tel dieu hindou qu'on épouse une intouchable. Pourtant, des milliards de gens y ont cru ou y croient encore. Bon, je ne nie pas que les religions peuvent avoir des effets bénéfiques. Ainsi, la Bible peut procurer de la joie et encourager les humains à la compassion, au courage et à la créativité. Un peu comme d'autres grandes œuvres littéraires, genre l'Iliade, l'Alchimiste ou Harry Potter. Si, si, croyez-moi, les textes religieux ne sont pas les seules fictions à proposer des récits métaphoriques qui recèleraient une sagesse profonde. Bon, les religions ne sont pas les seules à avoir utilisé la fiction pour cimenter la coopération. Chaque nation a ainsi créé sa propre mythologie nationale, car la plupart du temps, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et comme le dit le philosophe, on ne peut pas tromper 1000 fois une personne. Enfin, si, ça on peut. Mais on ne peut pas tromper 1 fois 1000 personnes. Ah si, ça on peut aussi. Mais par contre, on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, ça on ne peut pas. Quoique, c'est comme ça que les pires idéologies comme le stalinisme ou le nazisme ont été créées. L'important est d'avoir une bonne histoire à raconter. Car les êtres humains possèdent la remarquable faculté d'attendre et d'accepter qu'on leur raconte un bon récit. Le but, c'est de conforter sa vision et d'avoir un rêve commun. Pour faire plus simple, on va prendre un exemple. Le football. Si on y réfléchit bien, c'est juste 22 nanas ou 22 gars qui courent après un ballon. Cela n'a rien d'exceptionnel. Mais si on oublie cette simple donnée, le foot peut devenir une affaire des plus sérieuses. Il peut aider à formuler des identités personnelles, à souder de grandes communautés et même à justifier la violence. Bon, en fait, si on y réfléchit, les nations et les religions sont des clubs de foot sous stéroïdes. Bon, il est tout de même possible de connaître un semblant de vérité. Il faut aller la chercher et ne pas attendre celle qu'on nous procure gratuitement sur les réseaux sociaux. Imaginez quelqu'un vous propose un peu d'argent, disons 30 euros par jour, pour vous laver le cerveau et vous bourrer le crâne avec ses idées. Peu d'esprits sains accepteraient. En tous les cas, personnellement, je refuserais. Mais actuellement, avec les notifications sur les réseaux sociaux, c'est comme si on nous lavait le cerveau sans rien nous demander en retour.
nous n'allons pas chercher la vérité. Nous recevons chaque jour notre dose de notification. Pour connaître la vérité, il faut faire l'effort et prendre le temps d'aller chercher les expertises scientifiques, même si celles-ci sont souvent techniques ou difficilement accessibles. Mais voilà, c'est ça la solution. Il faudrait que les scientifiques se mettent à écrire de la science-fiction. Alors là, on commencerait peut-être enfin à croire au réchauffement climatique et autres théories sur le clitoris.
Merci Eric, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour introduire la deuxième partie de cette émission qui va être un peu plus hot, on s'écoute Je t'aime moi non plus avec Jane Birkin et Gainsbourg, évidemment. On entre dans notre deuxième partie d'émission. Nous sommes toujours avec Kate et Lydia du planning familial. J'espère que vous vous sentez bien avec nous.
Lydiane.
Lydiane, bien vu. Je lui ai dit, si je dis Lydia une seule fois, reprenez-moi. Donc merci Lydiane. Bon, ça va ? Vous vous sentez bien ?
Oui, oui.
Dans la première partie, nous avons pris le temps donc, de présenter votre structure. Nous avons souligné le fait que vous mettiez en place un certain nombre d'actions. J'aimerais revenir sur l'une d'entre elles. Il y a plusieurs jours, pour la fête de la science, vous avez invité Odile Fillot.
Nous sommes ravis d'avoir eu Odile Fillot donc, le 8 octobre dans le cadre de la fête de la science. Odile Fillot, c'est une chercheuse indépendante qui a pour mission, si je peux dire, de débusquer les biais sexistes dans les études scientifiques et toutes les approximations qui peuvent être faites lors de la vulgarisation de ces études dans les médias. Donc elle est spécialisée dans les questions de sexe et de genre. Elle est intervenue auprès de 4 classes de lycéens pour parler du clitoris lors d'une conférence. Et ensuite, nous avons organisé un café débat où là aussi, elle a abordé le plaisir féminin et donc a présenté le clitoris à tout le public qui était là.
Et d'ailleurs, vous avez ramené un petit objet avec vous, Lydiane, aujourd'hui.
Ah, tout à fait, parce que j'ai ramené un clitoris en 3D. Donc, c'est dommage que les auditeurs ne puissent pas le voir. C'est grâce à Odile Fillot qu'on a ce modèle de clitoris imprimable en 3D. Voilà, elle a œuvré en fait ces dernières années à réhabiliter le clitoris dans les manuels scolaires et aussi à diffuser toute la connaissance qu'on avait et qui avait été négligée ces dernières années sur cet organe qui est l'organe primaire du plaisir sexuel féminin.
Elle est partie voir donc des lycéens, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous étiez là ou pas pendant...
Oui.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des réactions qu'ont eu les jeunes par rapport à ce qu'elle disait?
Alors moi, j'étais tout devant, donc c'est vrai que je n'ai pas pu voir le visage de tous les lycéens.
Mais toi,
moi,
Kate,
moi, oui. J'animais la séance, c'était dans l'amphithéâtre de l'Université de Perpignan. Donc, toutes ces 4 classes étaient en face. Et les profs ont dit qu'ils étaient très attentifs. Et c'était vrai, on avait une très grande attention. Et on les invitait à poser des questions après. Alors, ce n'est pas évident de poser une question sur le clitoris devant 4 classes de lycéens et ses camarades de classe. Mais on avait pas mal de questions, soit d'informations, parce que les choses, c'était assez technique au début, parce que c'était dans le cadre de la fête de la science. Elle a expliqué l'anatomie du clitoris, comment ça fonctionne, l'historique et les besoins de recherche à venir. Mais garçons et filles ont posé plein de questions jusqu'à là pour prendre l'écart scolaire. Donc, je pense que ça va... Et le matin, il faut dire que nos animatrices ont animé les rencontres en petits groupes, en classe, le matin. Donc, ça les a aidés, je pense, à trouver la parole pour parler après.
Un clitoris, ce n'est pas seulement un organe, c'est aussi un symbole. Parce qu'il était très, très peu représenté jusqu'à il y a quelques années. Et là, tout d'un coup... on voit des groupes qui commencent à en afficher, des associations qui commencent à faire des raids un petit peu comme ça dans la ville, en coloriant un peu partout. La parole se libère ?
Je pense que la parole se libère. C'était en fait connu depuis la Grèce antique, hein, mais personne ne comprenait pourquoi on avait cet organe. Et dès que c'était compris que ça n'avait aucun rôle dans la reproduction, les médecins ne s'intéressaient plus. Et c'était qu'à partir de 1953, il y avait un grand rapport sur la sexualité des femmes, le Kinsey Report, que ma génération a souvent utilisé comme information, que de nouveau, ça libérait pour les femmes la connaissance de leur corps, parce que même aujourd'hui, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur propre corps. D'où l'importance de ce modèle pour expliquer.
Ouais, je peux rajouter que le clitoris, comme vous l'avez dit, c'est un symbole, mais c'est donc surtout un symbole éminemment politique, parce que reconnaître la réalité de cet organe, c'est revendiquer que la sexualité et le plaisir des femmes peut totalement s'émanciper de celui des hommes. Et donc ça, c'est forcément un sujet qui peut en chatouiller certains, je pense.
Est-ce que vous en avez justement chatouillé quelques-uns pendant ces conférences ? Est-ce qu'il y a des hommes qui se sont sentis un petit peu sur la défensive par rapport à ce genre de discours ?
Alors non, lors du café débat où il y avait quand même 5 à 6 messieurs, je ne les ai pas entendus réagir vivement, mais plutôt écouter tant la description de l'organe et comment le stimuler.
Eric Angelo, on voit que vous êtes très attentif, vous aussi.
Non, oui moi, j'ai aimé le terme chatouiller. Là,
c'est bon. Non, mais c'est bien. Vous allez faire le plein d'informations. Et ce soir, tout le monde sera content. des débats de sexe et de genre aussi, je suppose, parce que c'est des questions qui, comme on le disait tout à l'heure, sont toujours au centre de ces discussions. Est-ce qu'ils ont leur place, ces débats-là, dans la compréhension de notre sexualité ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce que la question de sexe, mais pas en, en termes sexuels, mais de sexe et de genre, ça nous aide à mieux comprendre notre sexualité aussi ?
Je crois que c'est évident parce qu'on a tous des représentations sur ce que serait une sexualité soi-disant normale et des représentations extrêmement sexistes de cette sexualité. Donc les questions de genre et de sexe, en effet, modifient notre rapport au corps, au nôtre et à celui de l'autre. Pour donner un exemple de représentation, c'est de penser que les hommes sont forcément plus actifs, dominants, et que la femme, elle, reste généralement dans une position passive et soumise, par exemple lors des relations sexuelles.
Mais après, si on colle à ce schéma-là, je pense, vous allez me dire si je me trompe, qu'il ne faut pas non plus culpabiliser d'aimer ce schéma-là.
Ah mais non, pas du tout. Nous, c'est pas notre rôle, c'est pas d'aller imposer un type de sexualité ou de stigmatiser un type de sexualité, mais c'est d'essayer quand même d'élargir peut-être la palette des plaisirs possibles en sortant de ces schémas ultra sexistes.
Et pour revenir aux interventions que vous avez faites donc sur le clitoris. Vous avez un petit peu évoqué les questions qu'on vous avait posées. Est-ce que vous vous souvenez de quelques exemples marquants de questions ?
Moi, je me rappelle d'une question d'une jeune fille qui a été étonnée d'apprendre que le clitoris pouvait également être en érection, puisque le clitoris est constitué de corps érectiles. C'est l'homologue du pénis. Et ça, voilà, c'était quelque chose qui a un petit peu surpris l'auditoire. Érection, on l'associe généralement uniquement au pénis.
Kate ?
Oui, je pense que ça questionnait beaucoup de gens sur le droit des femmes, en fait, de s'approprier de leur propre corps. Comment dirais-je ? Surtout selon les cultures, on a permis les femmes soit exprimer la sexualité ou pas. Et je pense que pour beaucoup, ces questions sont vraiment de l'actualité parce qu'on voit qu'au travers, par exemple, les violences faites aux femmes, c'est en tant que du corps de la femme que ces violences sont les plus marquantes. On parle beaucoup de comment brimer les petites filles dans les relations incestueuses, par exemple. Et dans les accompagnements des adultes, on voit comment des décennies après, ça laisse les traces. Donc, plus on intervient, je trouve, très tôt, à la fois sur la sexualité et surtout sur comment être maître ou maîtresse de son propre corps, c'est très important.
Il y a encore, dans certaines sociétés, des femmes qui se font exciser très jeunes. Qu'est-ce que ça révèle de la position de la femme dans ces sociétés-là ? Elle est uniquement un organe reproducteur ?
Pour moi, ça révèle la peur des hommes de la sexualité des femmes. Parce que quand on fait tout pour nier la possibilité de plaisir, c'est vraiment une soumission extrême. Donc ça veut dire garder une femme captive à son seul homme et éviter qu'elle puisse jouir de cette relation. Ce que j'ai appris de la conférence d'Odile Rieuve, par exemple, je n'ai pas imaginé la réalité. Il y a des soi-disant réparations sexuelles des femmes victimes de mutilations génitales. En fait, le gland du clitoris ne peut pas être réparé. Donc, on peut réparer les déchirures, les tissus autour. Mais une fois que c'est incisé, c'est fini, c'est parti. Donc, ça laisse les traces à vie.
Parmi ce genre de réparation, on a aussi le point du mari. Liliane, est-ce que vous voyez ce que c'est ?
Si je ne me trompe pas, c'est le fait de venir faire un point qui va resserrer l'entrée du vagin pour les femmes après des accouchements.
Voilà, c'est ça exactement. Donc, ce genre de point qu'on rajoute après un accouchement sans demander l'avis de la femme en question et qui fait souffrir énormément de personnes qui n'ont jamais...
Ça, c'est des sujets qui peuvent être abordés dans les entretiens des couples ou après un accouchement, par exemple.
Je voulais dire que ça, c'est le genre de choses qui rentrent dans le cadre des violences obstétricales, dont on a largement parlé ces dernières années. Et je rappelle que, normalement, dans le cadre de la loi, aucun geste ne doit être effectué sur une personne sans avoir eu son consentement après une information éclairée.
Je voudrais juste revenir sur l'information auprès des jeunes personnes, vous disiez au plus tôt, et je me positionne d'un point de vue de parent, par exemple. À quel moment ils peuvent parler de sexualité, de conscience du corps, de quelle façon ? Est-ce que vous pouvez les aider, vous, à trouver les mots ?
Oui, on travaille aussi sur la parentalité. Donc, beaucoup de parents peuvent se demander comment aborder ces sujets. Dans la plupart des situations, on peut aider les parents à élargir la question sur comment on parle, comment on agit en famille par rapport à nos propres corps, quelles sont les règles familiales, qui se sent à l'aise avec quoi. La plupart des enfants, quand ils sont entourés des relations normalement constituées, si on peut dire, posent eux-mêmes les questions. Donc, l'important, c'est d'aider les parents à répondre avec les mots qui sont appropriés à leur âge et ne pas aller trop vite, ne pas parler des choses que l'enfant n'a pas encore imaginées ou voulu parler. Et c'est-à-dire, c'est une conversation permanente entre les tout petits-enfants qui découvrent la cour. Donc, on sait les petits-enfants qui découvrent la masturbation, par exemple, dans certaines familles, c'est réprimé. Ou on sait qu'apprendre son corps, c'est quelque chose de très important pour sa sexualité. Donc, petit par petit, je pense que l'idée clé, c'est d'écouter son enfant, de répondre à ses questions avec les mots qui ont du sens pour lui.
Angelo, Eric, vous êtes pères tous les deux. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question du moment fatidique ? Vous allez devoir en parler.
Non, moi, je sais que oui, des fois, ils posent des questions. Et puis, il a une grande sœur. Enfin, il y a une grande sœur, ils sont deux. Donc, c'est vrai que l'un par rapport à l'autre, des fois, ils se posent des questions. Et, donc, oui, on essaie d'y répondre. Après, ouais, c'est vrai que comme ça vient d'être dit, des fois, on se demande jusqu'où on doit en parler. Quoi. Quel est, par moment, on sait pas trop quelle est la limite, donc on dit peut-être pas toujours tout ce qu'on devrait dire pour pas trop en dire non plus, mais voilà, on essaye, on répond à leurs questions en tous les cas. Ouais.
Juste comme disait Kate, je crois que c'est important quand l'enfant pose une question de lui demander en retour, mais qu'est-ce que toi tu en sais déjà, qu'est-ce que toi tu as compris, pour voir justement où il en est et jusqu'où nous on peut aller derrière. Et ensuite, je rappelle qu'au planning familial, on est un centre de documentation et d'information. Donc, on a de nombreux ouvrages à destination des enfants que l'on peut prêter ou que les parents peuvent également feuilleter sur place pour ensuite les diffuser auprès de leurs enfants.
Je vois Angelo au bout de sa vie en stress total.
Non, c'est pas ça. C'est entre Adam et Ève et le clitoris. Je sais pas où je vais placer les gosses aussi.
Donc on reviendra, t'en fais pas. Mais t'as encore un petit peu de temps pour te préparer. Mais fais ce qu'on
comme si t'étais pas là.
Oui, voilà. Non, mais du coup, toi, en tant que père, est-ce que tu t'es déjà posé pareil des questions à Eric ou est-ce que ton fils t'a déjà posé des questions par rapport à ça?
Non, enfin voilà, j'aurais répondu un peu comme Eric tout à l'heure. Après, les questions de mon fils, moi, c'est plus autour de son désir d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc voilà, comment on fait. Voilà, je parle d'amour, de rapprochement entre un homme et une femme. Voilà, c'est des mots, c'est simple parce que il a 7 ans. Donc.
Peut-être ce qu'il faut rajouter, c'est que ce qui est important, c'est de préserver les enfants de la sexualité des adultes. Hein, donc. Ça, c'est nécessaire dans son développement qu'il n'est pas confronté aux choses qu'il ne comprend pas. Y a la sexualité des enfants, ils vont poser des questions. Quand ils s'ennuient parce que les réponses ne sont pas ce qu'ils attendent, ils partent faire d'autres choses. Hein. Et quand ils ont d'autres questions, si on a bien répondu, ils reviennent. Donc l'important, c'est de rester à leur écoute.
Il y a des choses que les parents ne peuvent pas forcément contrôler. Je pense notamment à la pornographie sur Internet. Vers quel âge est-ce que... alors, bon, ça véhicule des schémas qui ne sont pas forcément les bons non plus. Mais je pense à un jeune garçon, par exemple, qui commence à regarder ça à 10 ans. Ça va forcément avoir un impact sur sa vision de la sexualité et même sur ses actions sexuelles plus tard.
Il me semble que c'est un devoir de parent de ne pas laisser l'enfant seul à vagabonder sur Internet de toute façon. Si on a une bonne relation, l'enfant qui voit quelque chose de choquant, qu'un copain lui a montré par exemple, en principe va le dire. Il va le montrer, va le dire, il va sentir une gêne. Et si on est quelqu'un de confiance pour lui, il va nous parler. Anselme m'a montré ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là où c'est plus difficile, c'est quand la relation est mauvaise, l'enfant va peut-être pas oser en parler. Et là, il reste enfermé avec ses doutes, ses questions. D'où l'importance des interventions qu'on fait en classe, parce qu'on peut en parler en classe, on peut encourager les enfants de discuter entre eux et on peut les aider à voir un petit peu plus clair.
Pardon, Lydiane, allez-y.
Oui, je voulais juste rajouter que maintenant, on le sait, hein, tous les enfants avec les smartphones ont accès très tôt à de la pornographie. Et que s'il y a un message à faire passer en tant que parent, tonton, tata, cousin, cousine, je ne sais pas, plus âgé, c'est de rappeler en tout cas à ceux qui visionnent la pornographie qu'il s'agit bien de fiction et que cette fiction peut malheureusement entraîner des représentations ultra sexistes, encore une fois, de ce que serait la sexualité normale. Et donc essayer de discuter à déconstruire les schémas proposés par la pornographie.
Il y a d'ailleurs... Porn Studies, il y a des très bons, très bons ouvrages d'études pornographiques qui justement expliquent et déconstruisent ces schémas-là. Il y a aussi un nouveau genre qui se développe, qui est la pornographie féministe.
Tout à fait.
À voir après si c'est intéressant ou pas. Je vous laisserai faire votre avis. En tout cas, elle regarde au moins 3 vidéos tous les soirs. Surtout que là, c'est sa 3e émission, donc autant vous dire qu'elle va se lâcher. Inès, t'es un petit peu en avance sur Halloween, puisque tu vas nous parler de sorcières.
Exactement. Alors du coup, je me suis inspirée d'un essai qui vient de sortir, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet, que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire, mais ça m'a inspirée la chronique. Donc, aujourd'hui, je vais faire appel à vos souvenirs d'enfants. Imaginez-vous avec 1 mètre de moins, emmitouflé dans des vêtements qui grattent. Rappelez-vous ces histoires que l'on vous a contées avant de dormir. Il y avait le loup, affreuse bête mangeuse d'hommes, aux poils hérissés couleur charbon, un sacré méchant. Et il y avait les sorcières, ces femmes au nez crochu, agrémentées d'une grosse verrue. Ces sorcières qui ont hanté nos nuits et écourté celles de nos chers parents. Ça y est, vous y êtes, vous vous souvenez? Parfait. Maintenant, échappons-nous de ces vieux contes lugubres. Un petit zoom sur l'histoire de France s'impose. Au cours de la Renaissance, de grands bûchers sont organisés. Nos chères sorcières y sont brûlées par centaines. Ces vilaines pactiseraient avec le diable. Face aux maladies inexpliquées ou autres maux de la société, il faut bien trouver un coupable idéal. Bien loin d'être toute vieille ou désagréable à regarder, les sorcières sont sélectionnées parmi la population. Si vous étiez femme entre 1580 et 1640, que vous aviez le malheur d'être instruite, d'avoir des mœurs légères ou encore pire, d'être libre, vous finissiez à la casserole. Sympa, non? Des hommes ont également vu leur vie quelque peu écourtée à cette période, ne les oublions pas, ils prendraient mal. Je vous l'avais dit, ce petit zoom historique s'imposait. Il remet les pendules à l'heure. La sorcière devient alors plus chère à nos cœurs lorsqu'on se rend compte qu'elle aurait été victime d'un certain jugement de valeur. Dans les années 70, la sorcière est d'ailleurs utilisée par les féministes, telle une idole, une représentante féminine. Et toc, elle a enfin un nouveau visage. J'imagine alors que la sorcière de mes cauchemars est forte et indépendante. Belle ou moche, ronde ou fine, peu importe, elle m'inspire. D'ailleurs, au même titre que toutes les femmes qui font entendre leur voix et qui sont lynchées sur l'espace public. Petit clin d'œil à Greta Thunberg, jugée trop jeune, trop colérique, trop différente pour alarmer sur le réchauffement climatique. Clin d'œil à toutes ces femmes que l'on qualifie aujourd'hui d'hystériques à la place de sorcières. Et pour être en accord avec le sujet du jour, que l'on n'a pas encore abordé, parlons de la PMA ouverte à toutes les femmes, un sujet qui met le feu aux poudres. Quoi ? Des femmes pourraient se passer des hommes pour fonder une famille ? Je les entends déjà en appeler à la sorcellerie, alors je voudrais rassurer les réfractaires. Avec hystérie s'il le faut, nous continuerons à nous faire entendre. Signez vos sorcières bien-aimées.
Merci Inès, la meilleure des sorcières autour de ce plateau. Et on reste du côté des femmes. Cette fois, on écoute Angèle avec « Balance ton quoi ».
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi, même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire moi je passerai pas à la radio. Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un oui, je serais poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
À vous tout de suite, Kate et Lydiane. Mais d'abord, je vais me tourner vers ma nouvelle recrue. Angelo, tu vas essayer de nous présenter des petites idées de sortie. Et t'as commencé par bouger ce week-end. Alors en automne, quand il fait froid, quand il fait pas beau, qu'est-ce qu'on peut bien faire en Lozère?
J'avais prévu d'aller ramasser des châtaignes dans les Cévennes, mais apparemment il y avait un épisode Cévenol, donc j'ai changé mes plans au dernier moment. Et je suis allé dans un buron, avec mon fils. Donc c'est ça l'idée en fait de ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, puis peut-être les autres émissions. C'est une sortie père-fils les week-ends. Donc là c'était dans le buron de Bess. Donc il y a des Lozériens là autour de nous.
C'est quoi un buron alors?
Il y a des Lozériens dans la salle. Donc un buron, c'est un bâtiment de pierre couvert de lauzes ou d'ardoises qu'on retrouve dans le Cantal, l'Aubrac, le Cézallier et les Monts d'Or. C'est un bâtiment qui servait pour l'estive et où on fait aussi la fabrication du fromage. Je n'ai pas dit de bêtises?
Oui, c'est bon.
Ok. Il en existe peu qui sont encore en activité. Alors, on peut appeler pour réserver et manger, mais ils ne vous répondront pas. Et sinon, effectivement, il y en a où on peut manger de l'aligot, des produits un peu du terroir, etc. Et donc là, notamment, au buron du Bess, donc, situé, l'adresse, c'est le pont de Gournier, 48 260 Recoul d'Aubrac. Le nom Bess, c'est la rivière qui coule, qui traverse l'Aubrac à ce niveau-là. Et donc, au buron de Bess, on est accueilli par Martine et Bernard Bessière, dans un buron niché au cœur de l'Aubrac. On peut manger à l'intérieur. Au beau jour, il y a une belle terrasse, mais là, ce week-end, ce n'était pas propice à profiter du soleil, donc j'ai mangé à l'intérieur. Donc moi, j'ai mangé un mijoté de bœuf au cèpe. Si, si, il y a des cèpes, il suffit juste de savoir où c'est. Et mon fils, un aligot saucisse Bon, il y en avait pour 4.
Oui, tu l'as aidé un petit peu.
À peine, parce que moi-même, j'avais du mal avec ma truffade. Après, sinon, je recommande les desserts. Il y avait des tartes aux fruits magnifiques, tartes maison. Voilà, ce que je peux dire sur ce bureau que j'ai trouvé très, très agréable, ambiance familiale.
Pensez à retirer avant.
Alors par contre, il faut penser à retirer avant parce qu'ils ne prennent pas la carte. Mais par contre, comme on est en Lozère, on a la possibilité de payer soit en faisant la vaisselle, soit en allant retirer à 6 km à Nasbinal et on ne vous demande même pas de laisser votre permis ou votre fils. Donc c'était assez sympathique de leur part. Donc voilà, donc, pensez à retirer.
Et t'as fait quoi ensuite ?
Ensuite, la balade digestive s'imposait, donc j'ai marché un petit peu autour du bureau. Et puis j'ai repris la voiture qui m'a conduit à la Chaldette, terme. Avec une eau, alors ça, je trouvais ça rigolo parce qu'après je me suis un peu renseigné. C'est la nature de l'eau de la station thermale de la Chaldette possède de grandes vertus dans le traitement des problèmes digestifs et métaboliques.
Donc nickel après un bureau.
C'était nickel parce que c'est la qualité du produit est irréprochable, mais par contre, il y a à manger pour 4 quand on est tout seul, ça fait beaucoup quoi. Donc voilà, donc c'était. Et même si on va plus loin sur ce qui est marqué sur le site de la Chaldette, il y a marqué ses vertus décongestionnantes, laxatives et diurétiques procurent un confort et bien-être. Voilà.
Et on paye combien pour ça ?
Alors, j'avais pris la plaquette des tarifs, mais je ne l'ai pas gardée. Mais c'est à peu près entre 60 et 80 euros. Alors, l'entrée pour une demi-journée avec un soin ou deux soins, etc. Mais moi, j'étais avec mon fils, donc je n'ai pas pu en profiter. Je n'avais pas de maillot non plus, puisque c'est que pour les adultes. Mais en tout cas, ça peut être une idée de sortie juste après le bureau. Sachant que là aussi, je n'ai pas les dates. Les bureaux ne vont pas tarder à fermer, je crois, puisque avec le froid approchant...
C'est quel ordre de prix, les bureaux, le menu ?
C'était entre 28 et 33. Après, on peut prendre la carte aussi. On est aux alentours de 15 euros, je crois. Ça vaut le coup.
Il faut aimer la viande.
ou la salade et la ligot, mais ça ne se marie pas très bien.
Si, Stéphane. C'était la petite chronique sortie. Angelo, on te retrouve où la prochaine fois, tu le sais ou pas ?
Je sais pas, je pars à Paris pendant une semaine là, mais je peux pas en parler là parce que c'est une surprise pour mon fils.
Alessio, si tu nous écoutes, ne nous écoute pas.
Ne nous écoute pas, ouais, c'est ça.
Kate, je me tourne vers vous à présent parce qu'il nous reste encore quelques petites minutes et je voulais aborder un sujet d'actualité. Apparemment, vous êtes la spécialiste de la PMA, vous êtes présentée comme ça. Il y a eu un vote il y a quelques jours, est-ce que vous voulez un petit peu parler de ça ?
Oui, en fait, l'histoire de la PMA, c'est assez simple. En fait, la plupart des pays européens permettent la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Or, en France, on ne restreint qu'aux femmes dans les couples mariés, couples hétérosexuels mariés. Et ça veut dire que les femmes homosexuelles en couple ou les femmes seules n'avaient pas accès à cette procréation médicalement assistée. Donc la loi essaie de corriger cette situation parce qu'on voit que beaucoup de femmes, soit qui ne sont pas dans un couple hétérosexuel ou qui sont dans un couple homosexuel, qui ont un désir d'enfant, un projet parental, sont obligées d'aller à l'étranger et payer très cher. Donc le projet de loi qui a été voté hier en Chambre des députés, c'est d'ouvrir cette possibilité et que ça soit remboursé pour toutes les femmes sans règle autrement. La seule différence qu'on peut constater, c'est que dans la loi, il est recommandé ou prévu que les femmes homosexuelles posent un projet parental auparavant. Et nous, on discute l'importance de ça parce qu'un couple hétérosexuel n'est pas obligé de poser un projet parental devant le notaire et vivre la vie. Et si un enfant arrive, un enfant arrive. Donc, on a quelques points de désaccord, mais globalement, on est ravis qu'enfin, la loi va s'appliquer, espérons, pour toutes les femmes de façon égalitaire.
Il y a énormément de questions qui se posent aussi concernant les femmes seules qui voudraient un enfant. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre ce projet de loi, notamment pour ça, parce qu'ils estiment qu'il va y avoir un espèce de business qui va se créer où je veux un enfant, j'ai un enfant, et est-ce qu'on se pose la question de la responsabilité derrière, est-ce qu'une femme toute seule peut élever un enfant, etc. C'est c'est les questions qui émergent principalement de ce débat-là sur la PMA.
Oui, tout à fait. D'abord, il faut distinguer le désir d'enfant et le droit à l'enfant. Il n'y a pas un droit à l'enfant, mais il peut avoir un désir d'enfant qui ne peut pas être comblé par d'autres moyens. La question des femmes seules ou les femmes lesbiennes est en fait une fausse question, parce que partout, les responsabilités familiales dans l'histoire sont davantage portées par les femmes. En temps de guerre, il n'y avait pas d'hommes et les femmes élevaient parfaitement bien leurs enfants. Ce qui est important pour un enfant, c'est d'avoir au moins un adulte qui assure la vie affective de l'enfant. Et bien évidemment, la plupart des personnes qui élèvent seules les enfants font en sorte qu'il y ait une famille élargie, les tantes, les oncles, les grands-parents, les amis, qui viennent en soutien. On est heureux, et Angela nous a parlé de l'importance des pères qui s'appliquent davantage dans la vie de leurs enfants. Et donc, ce n'est pas une question de sexe ou de genre, c'est une question d'être adulte responsable qui sait tisser les liens avec un enfant qui est né dans sa famille, un enfant adopté, un enfant par mariage, un enfant en famille d'accueil. L'important, c'est d'avoir une attention pour cet enfant et de faire en sorte de trouver un tiers, c'est-à-dire un ou plusieurs autres personnes qui peuvent être importantes, sur lesquelles on peut s'appuyer dans les moments qui peuvent peut-être être un peu difficiles.
Donc on retient surtout de l'amour.
L'amour est un cadre, hein, parce que comme on dit les psychanalystes, l'amour ne suffit pas. On peut aimer un enfant, sans donner de cadre, ça peut partir en live. Donc l'important, c'est d'aimer l'enfant et de lui fournir un cadre sécurisant.
Merci beaucoup Kate, merci Lydiane, on arrive à la fin de cette émission. Merci énormément d'être venu ici ce midi. C'est la fin de l'Happy Hour et on en ressort aussi sobre qu'au début. Mon Dieu, ce que c'est triste. Promis, dans deux semaines, on aura du vin. Kate, Lydia, je vous remercie. Lydiane,
ah oui.
jusqu'à la fin, c'est fou. Hein. Merci, merci encore d'être venu. Je rappelle que le planning familial est ouvert tous les jours sur rendez-vous et sans rendez-vous le mercredi de 14h à 17h, c'est bien ça?
Oui.
Vous allez également organiser un atelier autodéfense féministe gratuit. Le 29 novembre au Falisson, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, un village sur le coast de Sauveterre.
Donc voilà, juste bien penser à s'inscrire.
Oui.
Merci aux chroniqueurs, merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Happy Hour. Oui, Angelo.
Non, moi, c'était
donc,
la première.
Là, c'est la fin.
Je me lâche, là, j'en peux plus. Non, je voudrais remercier juste hier, je suis allé discuter avec les enfants de l'école de Chanac-Marie-Rivier, de solidarité, de partage, de vivre ensemble. Et je veux juste remercier les enfants et les enseignants de leur accueil. Et n'oubliez pas, les mauvaises herbes, ça n'existe pas.
Bon, c'est tellement mignon que du coup, je ne vais pas t'en vouloir. On finit là-dessus, chers auditeurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Happy Hour. Ciao.
À bientôt.
Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour.
At the Happy Hour. At the Happy Hour.